émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même est ton nom suprême, le Seigneur même, il est amour. Je ne dirai que j'en le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. La définition de la vérité dans son sens le plus strict est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Il faut hélas constater que le souci de vérité n'est plus un fil conducteur de l'existence de tout un chacun. Sir Winston Churchill disait « La vérité est incontestable. La panique peut s'en offenser, l'ignorance l'a tournée en dérision, la malice l'a contournée, mais elle est toujours présente. » Plusieurs questions se posent. Quelle est notre attitude envers la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Peut-on encore la trouver et où? De telles interrogations, ainsi que d'autres d'ailleurs, sont autant de points vitaux que nul ne devrait négliger, car il en découle trop de choses importantes. Par exemple, l'issue fondamentale de toute religion débouche sur un principe de vérité ou d'erreur. La seule raison pour laquelle nous devrions participer et défendre sa doctrine devrait être basée sur la démonstration formelle de son origine divine. Sinon, que serait notre religion? Une tradition? Une habitude? Un réflexe? Qu'est-ce que la vérité? Cette question est loin d'être neuve. Et la preuve en est qu'il y a environ 2000 ans déjà, Pilate la posait mot pour mot à Jésus. Il s'agit bien de quelque chose d'essentiel, puisque nombreux sont ceux qui professent que la vérité absolue est une vue de l'esprit. Et ce n'est pas vrai. La vérité existe et elle est absolue. Absolue parce que la vérité est libre et indépendante de toute condition subjective auxquelles pourrait la soumettre celui qui connaît et accepte. Absolue car la vérité d'un fait ne peut être modifiée par quelqu'un qui rend des conclusions diverses à son sujet. La Bible enseigne identiquement la même chose aujourd'hui qu'il y a de nombreux siècles. Nonobstant les déductions ou les interprétations qu'on pourrait en tirer, les enseignements de la parole de Dieu n'ont jamais dévié, même de l'ombre d'un dixième de millimètre, de ce qu'ils ont toujours été. La vérité peut encore être définie de la manière suivante. Un jugement est vrai si la chose que l'on juge est bien ce qu'elle est. Ceci va à l'encontre de la théorie philosophique du relativisme, défendant la relativité, la vérité, en fonction des réactions de celui à qui on la proclame. En vertu de quoi une matière ne serait jamais reconnue telle qu'elle est, mais selon ce qu'elle apparaît être à un esprit particulier. En d'autres mots, la vérité ne serait que quelque chose de relatif, se modifiant au gré d'une personne ou d'une situation. Tout cela est difficilement acceptable. Quelle étrange et illogique doctrine que celle-là! Jésus, en parlant à ceux d'entre les Juifs qui avaient cru en lui, leur dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pourtant, combien d'êtres nient cet axiome? N'est-ce pas là manquer de bon sens? Il s'agit pourtant d'un fait établi. Jésus dit donc que les hommes connaîtront la vérité et que cette vérité les libérerait. Où est donc la vérité à découvrir? Cette vérité qui libère l'homme. Le Seigneur proclame également en parlant au Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La Bible est la vérité de Dieu. N'admettre ni son inspiration ni son autorité, c'est rejeter le christianisme tout entier car il est fondé sur cette vérité première. Ignorer le Fils de Dieu et les enseignements qu'il nous a laissés, c'est l'ignorer lui-même. Dans l'évangile selon Jean, ce même Jésus dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. et je sais que son commandement est la vie éternelle. Nous croyons que chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu, qu'il vienne de lui et de personne d'autre. Dire que la Bible est la parole de Dieu conduit à la certitude absolue qu'il enseigne la vérité. L'Éternel est incapable de mentir. Et Paul parle avec autorité de ce Dieu qui ne ment point en Tite, chapitre 1 et verset 2. Dieu étant un Dieu de vérité, chaque parole qu'il prononce est vraie. La Bible ne peut enseigner que la vérité. Des mensonges sont parfois cités dans le livre de livres, mais ils le sont en tant que tels. Chaque fois qu'on y parle de certaines fausses doctrines, elles portent l'étiquette du mensonge, tout en nous expliquant comment nous en préserver. Ce que la Bible défend, proclame, est pur, vrai, juste, saint. Il s'agit donc vraiment de la vérité dans toute sa pureté, dans toute sa limpidité première. Et ces propos nous conduisent tout logiquement vers une autre question. Peut-on encore atteindre la vérité de nos jours? Oh, certes oui. Nous sommes à même d'apprendre la vérité de la Bible. Mais cela ne signifie nullement que chacun a appris ou apprendra jamais tout ce qui concerne la Bible. Il est loisible à tout le monde d'acquérir une connaissance suffisante afin d'être sauvé par la vérité de Dieu. Tout d'abord, la vérité est à la portée de chacun, car elle est présente dans le monde où nous vivons. En Jean chapitre 1 et verset 17, Jean dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et souvenons-nous encore des paroles de Jésus déjà citées. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'apôtre Paul, lui aussi, nous exhorte en ces termes. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La vérité est donc présente dans le monde. Elle est disponible et accessible à tous. La purification de notre âme passe incontestablement par l'obéissance à la vérité. L'apôtre Pierre écrit ces mots inspirés. Vous avez purifié vos âmes en obéissance à la vérité. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La vérité est non seulement essentielle à la nouvelle naissance et à la purification, mais elle est également vitale, comme véhicule d'un culte véritable et conforme à rendre au Dieu vivant. Jésus enseigna que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La vérité existe. Vous pouvez la trouver aisément dans les Écritures. La vérité est importante. On peut y obéir et adorer selon ce qu'elle affirme de manière à plaire à Dieu. La vérité est à notre portée. C'est sa connaissance qui ouvrira pour vous toutes grandes les portes de la liberté spirituelle. Dites-moi, en aviez-vous pris conscience? Nous savons donc que la vérité existe, même de nos jours. Il est important de la connaître, d'y adhérer de manière à plaire à ce Dieu qui nous a tout donné. Nous avons également conscience du fait que cette vérité nous est accessible, est à notre portée. Permettez-moi maintenant de vous demander, qu'est-ce qui différencie un chrétien d'un non-chrétien? La distinction ne se situe pas au niveau d'une intelligence supérieure ou d'une plus grande étendue de connaissances spirituelles. Oh non. La réponse se trouve dans l'attitude adoptée par l'un et l'autre quant au message de vérité. Et cette différence est reflétée par les multiples facettes de ce qui constitue l'ensemble de leur jour. Et tout ceci nous ramène à une idée de base. La place plus ou moins importante qu'occupe la vérité dans notre existence. Ou plutôt, l'attitude prise à son égard détermine trois facteurs dont dépendent l'entièreté de notre vie spirituelle. Chercher à la connaître, y croire, y adhérer, lui obéir. Une introspection est donc devenue nécessaire. En voici les données. Suis-je prêt à accepter la réalité de la vérité? Suis-je prêt à partir à sa découverte, à fond, sans me laisser distraire par les choses accessoires? Suis-je prêt à vouloir laisser la vérité de la parole de Dieu et rien qu'elle me guider et considérer toute doctrine humaine comme un mensonge et une tromperie? Que pensez-vous? pensez-vous sincèrement? En toute probité intellectuelle de l'étrange question que Paul pose à ses interlocuteurs de Galatie. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? En quelque sorte, quelle aptitude adoptez-vous à la fois en ce qui concerne le message et celui qui le proclame? Peut-être vous arrive-t-il d'oublier de peser ce qui est dit à cause de celui qui parle. L'apôtre Paul, toujours en entretenant les Galates, leur dit une chose qui, à première vue, peut paraître assez étrange. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. L'infirmité dont il est affligé devrait inciter les Galates à le mal recevoir, sinon à s'en éloigner. Mais ils n'en font rien, ils l'acceptent tel qu'il est, ne le méprisent pas, mais le reçoivent plutôt comme si Jésus était là, devant eux. Cette chaleur, cet amour s'adresse non seulement à Paul l'infirme, mais bien davantage encore au message dont il vient de leur faire part, la vérité de Dieu. De nos jours, trop nombreux sont ceux d'entre nous qui coupent le son ou l'image en vertu d'idées préconçues sur ce que devrait représenter et dire quelqu'un pour proclamer à leurs yeux la vérité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous faisons alors preuve d'un esprit étroit et même fermé, que nos idées préconçues prennent le pas en nous sur la logique. Ne pouvons-nous admettre qu'il n'existe qu'une seule vérité, laquelle peut être dite par n'importe qui, puisque c'est la vérité? Il n'existe qu'une vérité que chacun devrait rechercher, et j'espère que vous êtes dans ce cas-là, oui. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.